Un métier, une passion, Jean-François Donati, comment êtes-vous devenu astronome ?
Bon, en fait, un peu par hasard, j'ai l'impression. Disons, à l'adolescence, on avait à la maison une lunette astronomique. Hein, je me souviens surtout de cette lunette astronomique que c'était difficile de la mettre en place, d'aller observer, et de la frustration qu'on avait finalement à ne pas arriver à voir les objets qu'on aurait aimé voir. Alors, quand on ouvrait les atlas, on voyait les magnifiques images de galaxies, de nébuleuses, etc. Et avec cette lunette astronomique, j'avais l'impression de ne rien arriver à voir comme c'était dans les atlas. En revanche, vous pouviez pointer la lunette sur une étoile quelconque, hein, défocaliser et voir apparaître des objets monstrueux, des étoiles complètement défocalisées. Et il y avait une part de rêve qui entrait à ce moment-là, c'est-à-dire vous vous faisiez peur à travers cette lunette astronomique et vous vous plongiez finalement dans l'espace à travers ce petit instrument. Et ces frissons que vous engendriez à partir de que vous pouviez engendrer à partir de la lunette, hein, ont sans doute participé à l'intérêt que ça pouvait avoir. Alors bon, j'avais décidé, hein, comme bon, les petites filles décident de devenir infirmières, les garçons peuvent décider de devenir astronomes. Hein, bon, une fois sur 100, ces prédictions se réalisent. Et puis mon père m'avait dit, oui, pour faire de l'astronomie, tu dois rentrer à Polytechnique. Donc, à partir de là, voilà, je m'étais dit, je rentre à Polytechnique. Bon, une fois à Polytechnique, évidemment, il y avait plein d'options possibles, et pas forcément l'astronomie, mais pourquoi pas aussi. Et il y avait aussi des cours d'astronomie, donc j'étais allé voir les cours d'astronomie de Jean Audouze. Hein, et puis, il y a eu deux, trois intervenants qui ont fait des exposés assez intéressants, et du coup, je me suis dit, bon, bah, finalement, j'étais rentré ici pour faire de l'astronomie, pourquoi pas faire de l'astronomie? Donc, j'ai fait le circuit classique, le DEA, la thèse, etc. Et puis, bon, je crois que finalement, j'avais un état d'esprit qui correspond assez bien à la recherche, c'est-à-dire, bon, imaginer des choses à partir de ce qu'on voit. Toujours une grosse part de rêve, j'ai l'impression, hein. Imaginer des choses à partir de ce qu'on voit, à partir de là, essayer de regarder, hein, si ce qu'on a imaginé correspond à quelque chose de réel. En général, s'apercevoir que ce qu'on a imaginé ne correspond pas à quelque chose de réel, mais justement que la nature a inventé quelque chose d'encore plus incroyable que ce que vous aviez pu imaginer avant. Et continuer cette escalade, hein, et vous construisez, et c'est encore une fois le côté assez enfantin du métier, vous construisez des édifices à partir de 2-3 photons que vous allez collecter ici ou là avec votre télescope, un peu comme une pile de cubes, hein, et voir à quel point cet édifice peut être compliqué. Vous empilez une trentaine de cubes les uns sur les autres, et ça tient toujours debout. Et à partir de 2-3 photons que vous avez collectés, c'est vraiment quelque chose d'assez enthousiasmant. Voilà. Hein, et je crois que, en fait, c'est surtout pour ça que j'ai fait de l'astronomie.
À Polytechnique, vous auriez pu finalement diverger vers une autre discipline, si j'ai bien compris. C'est des gens comme Jean Audouze qui vous ont rattrapé. Est-ce que vous avez une thématique qui est apparue comme particulièrement séduisante à cette époque-là? Vous saviez déjà que vous alliez vous diriger vers la physique stellaire, ou comment ça s'est passé?
La physique stellaire, non. Mais effectivement, à l'époque Jean Audouze faisait ses cours, c'était l'époque de la supernova 1987, c'était aussi le moment où la mission Voyageur devait, si je me rappelle bien, arriver vers Uranus. Je crois que c'était la première décision de construction du VLT. Donc c'était aussi une ère extrêmement dynamique.
Une
grande époque où beaucoup de choses se passaient, et effectivement ça donnait envie, hein, incontestablement. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu très bien tomber sur un autre enseignement qui m'aurait enthousiasmé de la même manière. Je pense qu'en fait, la seule chose qui est réellement importante, c'est l'enthousiasme. Après, la direction dans laquelle on s'enthousiasme dépend beaucoup du hasard.
Alors vous êtes lancé dans une thèse. Comment ça se passe une fois que... D'abord, comment on choisit finalement de faire une thèse, et quel sujet? Et comment ça s'est passé après?
On m'a proposé différents sujets de thèse, donc j'étais allé voir différentes personnes ici ou là, et justement, moi, j'avais choisi les champs magnétiques précisément parce qu'il y avait à peu près personne qui travaillait sur le sujet. J'avais l'impression qu'il y avait une opportunité justement de faire quelque chose de nouveau dans ce domaine-là, donc bon, ben, c'est ce domaine-là que j'ai choisi. C'était avec Françoise Pradry et Meyer Semel de l'Observatoire de Meudon. Et donc j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. C'était à la fois de la physique avec les doigts, hein, parce qu'il fallait construire des nouveaux instruments pour arriver à voir ces petits effets par lesquels les champs magnétiques se manifestent dans la lumière des étoiles, et arriver à construire cet instrument et arriver à faire quelque chose justement avec ses doigts, continuer à construire ses modèles, tout un outil de modélisation des données, tous des outils à construire de modélisation des données. Donc quelque chose qu'il fallait construire entièrement soi-même. Et bon, je crois que c'est surtout ce côté-là qui m'a plu, et c'est pour ça que j'ai choisi cette thèse-là. Alors, bon, la thèse a duré 3 ans. Après, à la fin d'une thèse, en général, on fait des demandes pour des études, une sorte de séjour postdoctoral. Moi, j'ai fait mon séjour postdoctoral au Canada, hein, pendant 2 ans. Et puis après, bon, j'ai postulé au CNRS et je suis rentré au CNRS. Bon, c'était il y a une vingtaine d'années maintenant, hein, donc c'est plus difficile aujourd'hui, hein, il faut souvent avoir beaucoup d'acharnement pour rentrer au CNRS aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a changé ?
Je crois le nombre de candidats effectivement a pas mal changé. Alors pourquoi le nombre de candidats a changé? Bon, quoi, à l'époque il devait y en avoir une centaine, aujourd'hui il y en a 200, hein, pour 3 ou 4 postes en général. Le nombre de postes aujourd'hui a changé, hein, depuis 2-3 ans le nombre de postes est en chute libre, hein, ça aussi c'est assez dramatique. Il n'empêche qu'effectivement la recherche offre, hein, une dimension qu'on ne trouve pas ailleurs. À la fin de la thèse et à la fin du séjour postdoctoral, j'étais absolument convaincu qu'il fallait que je fasse de la recherche, parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Cet effort pour arriver à construire, à faire toute une élaboration à la fois intellectuelle mais aussi concrète avec les mains, un instrument, à imaginer qu'est-ce qui peut se passer, à toujours trouver les instruments, vraiment c'est le métier de la physique, du physicien, de trouver les instruments qui permettent de tester les hypothèses que vous pouvez faire et d'aller chercher sans arrêt plus en avant, hein, si effectivement comment les choses se passent, et surtout de diffuser progressivement dans d'autres domaines. Alors vous partez du soleil et puis après vous allez regarder dans les étoiles plus ou moins froides, dans les étoiles jeunes et pourquoi pas au bout du compte dans les galaxies, dans l'univers. Les champs magnétiques jouent aussi un rôle dans l'univers. Quelle est l'origine des champs magnétiques dans l'univers? C'est encore des questions qui sont relativement vierges et qui seraient intéressantes d'aborder.
Et alors un enfant aujourd'hui qui comme vous aurait une lunette et la défocaliserait pour un petit peu rêver autour des étoiles, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui diriez comme votre père à l'époque, écoute, fais Polytechnique et prends cette voie?
Ben disons, c'était une réponse un peu, disons, un peu terre à terre. Hein. Je ne sais pas s'il faut faire Polytechnique. D'ailleurs, la plupart des astrophysiciens font ni Polytechnique ni l'école normale supérieure, hein, ce qui prouve bien que, hein, je ne dis pas que ça ne sert à rien, hein, mais ça n'est pas forcément nécessaire de faire ça. En revanche, ce qu'il faut surtout, c'est avoir de la curiosité. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'école ne forme pas assez les gens à la curiosité. J'ai plutôt l'impression même que c'est l'inverse, en fait, qu'elle inhibe les enfants, hein, d'abord à l'école primaire, puis au collège et au lycée. Or, il me semble que pour arriver à s'intéresser au monde, et à s'intéresser aux gens d'ailleurs, hein, il faut au minimum de la curiosité. Et précisément, la physique développe cette curiosité. On voit quelque chose, on s'interroge, on essaye de trouver pourquoi, comment, et on construit toujours les instruments qui permettront d'aller plus loin et de continuer à se poser des questions toujours plus vastes. Hein, et justement, c'est cette curiosité qu'il faudrait développer. Et un enfant... j'essaye d'ailleurs, hein, je trouve que d'ailleurs les scientifiques n'interviennent pas assez, en particulier dans les écoles, hein, j'essayerai justement et j'essaye de donner cette curiosité, de donner cet enthousiasme en montrant des choses qui leur donneraient envie. Et c'est d'ailleurs assez facile, l'astronomie pour ça est un très bon moyen parce que ça donne facilement envie. Et du coup, effectivement, arriver à développer la curiosité chez les enfants, c'est quelque chose d'absolument crucial pour l'astronomie ou ailleurs d'ailleurs, hein, pour les sciences en général d'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer aujourd'hui.
Et ça passe par des rencontres, en fait, mettre en contact finalement jeunes, les enfants avec des astronomes, par exemple. Ouais, c'est quelque chose qui vous paraît important?
Oui, tout à fait. Hein, et plusieurs fois, j'ai essayé de faire des présentations dans les écoles primaires. Hein, souvent, les institutrices, bon, peut-être qu'elles sont un peu intimidées, ou je ne sais pas, hein, m'ont répondu, mais non, ça c'est pour le collège, c'est trop compliqué à expliquer pour les enfants. Je pense qu'on a toujours un moyen, et justement, chez les enfants, parce qu'une fois que l'enfant aura perdu sa curiosité, ça sera trop tard. Et je pense qu'arriver à éveiller la curiosité d'un enfant, c'est arriver à éveiller la curiosité de quelqu'un, c'est d'autant plus facile qu'il est jeune, et précisément, il faut le faire chez les enfants. Arriver à développer l'esprit d'investigation, la curiosité en général, hein, il faut le faire chez les enfants et à l'école. Et c'est pas en radotant des recettes archaïques à l'école qu'on apprendra la curiosité aux enfants.
Bon, eh bien, vive la curiosité. Merci beaucoup, Jean-François Donati.
Merci.